Venez sans penser à ce que les autres peuvent penser de vous. Mais pourtant, en tout temps, comment est-ce, à quoi ça va ressembler? Et je pense qu'il veut que nous venions comme des enfants. Si vous voulez dire ce que je veux dire, maman, en tant qu'homme, mais avec cette attitude d'un enfant, de venir de penser à nous, du fait qu'on réponde à Jésus sans se soucier de ce que les autres pensent. Donc je veux être plus comme Timothée. Je ne veux pas m'inquiéter de ce à quoi vous pensez quand on loue. Je veux juste louer. Amen. Et c'est comme ça qu'on devrait aller vers notre Père. Il n'y a pas de question sur sa sécurité à ce point dans notre vie. Et la raison pour laquelle nous chantons des chansons comme ça, c'est pour louer Dieu, mais c'est aussi pour renforcer qui nous sommes. Plus, c'est l'idée du nouveau vin qui est fait, le fait de l'écraser, de créer le mou, et c'est une telle image qui est tellement belle, de pouvoir chanter cette chanson en Alsace, en France, entouré par les vignes. Je pensais presque que François pouvait venir et nous parler, parce qu'il me semble que dans sa vie passée, il travaillait dans les vignes. Après, je ne dis pas ça pour dire qu'il était réincarné, je ne le réinterprétais pas. Mais certains d'entre nous le savent. Voilà. Mais la pensée avant le message, c'est que je ferai un message, peut-être deux, peut-être trois. Non, je rigole. Je veux coopérer avec le pressage, le brisage. Parce que des fois, je me bats contre ces choses. Il y a les circonstances. Voilà la conviction du coup du Saint-Esprit, le travail de Dieu. Et je dois coopérer. Si Dieu doit faire du nouveau vin avec tout ça, et je vois Jésus là-dedans. Et Seigneur, laisse-moi apprendre de ça. Voilà, c'est juste une petite pensée. Donc, on se retrouve ensemble ce matin. Quand on chante ces chansons, on renforce des vérités en nous, pour donner de la gloire au Seigneur aussi. Donc je vous invite à aller dans 1 Pierre chapitre 2. Donc on va retourner dans ce chapitre qu'on a commencé la semaine dernière. Quelque chose que j'aimerais vous dire, quelques observations. Je pense au fait que tu es revenu. De la même manière que Dale et moi avons nos premier gros examen de français, après notre premier mois d'entraînement intensif. Si vous avez envie, vous pouvez penser et prier pour nous à 2 heures. Ben, voilà. Ce sont ceux qui sont faciles, mais on doit parler de nous-mêmes pendant 2 à 3 minutes en français pendant cet examen. Et je commence à arriver à peine dans le franglais, dans la combinaison du français et de l'anglais. Mais s'il vous plaît, priez pour nous, c'est tout. Et aussi, c'est chouette que Vincent soit de retour. On ne dirait pas qu'il est jet-lagué en le regardant comme ça un petit peu. En tout cas, c'est chouette de pouvoir l'avoir. Et je suis tellement content que Arsène nous ait rappelé ce matin que le bus ne nous emmènera pas simplement à la retraite, mais vous ramènera aussi à la maison de la retraite. Et je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais j'espère que vous savez que vous faites assez confiance à l'Église, savoir que si l'Église vous emmène dans les Vosges, qu'elle vous ramènera à des Vosges. Alors peut-être voilà qu'il y a une expérience passée, on devrait peut-être en parler. En tout cas, mon rôle précédent dans le ministère avant de venir en France était de superviser un certain nombre d'églises. Et l'une des choses que j'avais à faire, quand ils m'appelaient pour aller à l'église, n'était pas quand toutes les choses se passaient bien. En fait, c'était au contraire, c'était après qu'il y ait eu un gros problème ou un conflit. C'est à ce moment-là que j'aurais eu le coup de fil. J'aurais bien aimé qu'ils m'appellent avant ça, qu'on puisse du coup s'en dépatouiller d'une autre manière. Mais j'avais ces appels et je voyais tout un tas de choses dans l'église qui étaient si décourageantes, où je penserais simplement, à quoi pensais-tu? Des fois c'était le pasteur, des fois c'était la congrégation, des fois c'était les leaders de l'église. Donc ensuite j'y allais et j'essayais de les accompagner pour ça. Et incroyablement, Dieu a fait des choses incroyables à travers ça. Là, et ça nous rappelle que l'Église est remplie d'êtres humains, dirigée par des êtres humains, avec un pasteur qui est un être humain. Mais ici, il y a le problème pour moi. L'Église, oui, peut être dysfonctionnelle, peut être bordélique. En fait, je veux dire, elle est même toujours en bordel, mais elle est belle. Et c'est merveilleux. Et toute cette expérience ne m'a pas amené à croire différemment l'Église. En fait, je donne plus de valeur à l'Église aujourd'hui que je l'ai fait dans tout le reste de ma vie, que j'ai grandi dans l'appréciation de ce que j'ai de ce qu'on appelle l'Église. Et avec tous ces problèmes, je suis arrivé à comprendre que l'Église est quelque chose de spécial. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Votre vision de l'Église est probablement basée sur vos expériences passées. Mais j'aimerais que vous veniez avec moi dans un voyage pour voir, échanger ou renforcer votre vue positive de l'Église pour cette raison. Parce que ce n'est pas mon opinion de l'Église ou mon expérience de l'Église. C'est ce que Dieu dit à propos de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comment Dieu voit l'Église. Je parle dans cette terminologie un peu neutre, l'Église. Mais pour le moment, par tous les moments où le mot Église est utilisé dans le Nouveau Testament, la majorité, et en fait, une très grande majorité, on parle d'une église locale. Donc, oui, c'est en train de vous dire, peut-être, là, il est en train de parler de l'église universelle, pas l'église, vous savez, locale. Mais non, il parle de l'église locale. De même que la connexion globale de tous les croyants, ce qu'on appelle l'Église universelle. Mais comment est-ce que Dieu voit son Église? Comment est-ce qu'il regarde son Église? Et donc on arrive à 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Quel mot merveilleux à propos de l'Église et l'importance de l'Église. Pourquoi elle existe? Pourquoi est-ce qu'elle a importance? Pourquoi est-ce qu'elle a de la valeur? Première chose, on se rend compte que nous sommes son peuple choisi. Voilà, la vue de Dieu par rapport à l'Église est beaucoup plus grande que ce qu'on peut nous imaginer. Et ce n'est pas parce qu'il a payé le prix pour nous, il est mort pour nous. Voilà. C'est quand le Père Céleste nous voit, il voit du coup la sainteté du Seigneur Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Et oui, nous venons, notre congrégation vient, la vue de notre Père envers nous, et que nous sommes tous ses enfants précieux, nous faisons partie de sa famille. Mais ici, ce que dit la parole, vous êtes un peuple choisi. Choisi. Choisi par qui? Choisi par Dieu. Dieu vous a choisi. En fait, la création de l'Église est à propos de l'initiative de l'amour de Dieu. Que Dieu qui a ramené l'Église à lui-même, c'est son idée, c'est pas la nôtre. Si vous pensez que c'est votre idée de venir à Dieu, vous avez coopéré avec quelque chose qui se passait dans votre vie avec le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a amené à un endroit de foi et vous avez cru en Dieu, vous avez coopéré avec ça. Mais vous êtes ici par l'initiative de Dieu. Ça, c'est important. Vous êtes choisi par Dieu. Il a créé cette église. Il a construit cette église. Il nous a amenés en connexion avec lui, les uns avec les autres. Donc, si vous croyez que l'église est sa créature, c'est Dieu qui a choisi. Première chose, à savoir, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. Amen. Voilà, il est saint, il est parfait, il est juste, il ne fait pas d'erreur. et l'Église est son idée. Ce n'est pas quelque chose quelques personnes se sont mis ensemble après que Jésus réussisse pour dire qu'est-ce qu'on va faire, et Jésus est parti, il est renvoyé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pierre? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose appelé l'Église. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, Jésus a dit quoi à ses disciples? Il a dit, attendez. Attendez jusqu'à ce que je fasse venir un autre le Saint-Esprit.
C'est le
Saint-Esprit qui va vous solidifier, vous permet de créer l'Église. Ne créez pas une organisation humaine qui a l'air très organisée et vous pensez à toutes les choses de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire ci et ça et ça. Non, attendez.
Je
veux dire, attendez. Est-ce qu'on devrait faire quelque chose? C'est la réponse humaine. Est-ce qu'on devrait faire quelque chose? Oh, on devrait faire quelque chose. Non, attendez. Acte chapitre 1, attendez. Ok. Mais attendez. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas? Ah, ça ressemble à une bonne idée. Prions. Ah, prions ensemble. Soyons 120 personnes qui se retrouvent et attendez. Et qui attendent et qui prient. On ne va pas juste attendre et se regarder les uns les autres. On va en fait prier ensemble. Et on va écouter. Et on va attendre. Et anticiper. Parce que nous ne créons pas l'Église, c'est Dieu qui crée l'Église. Et ensuite, un jour, pendant qu'ils attendaient, Actes chapitre 2, boum, le Saint-Esprit arrive et il crée un peuple choisi. Et c'est le début. Et on fait partie de ça. Vous faites partie de ça. C'est la création de Dieu. Donc Dieu ne fait pas d'erreur. Il a mis en place un chef-d'œuvre. L'Église universelle et l'Église locale, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est une telle grande beauté malgré tous ces problèmes. Donc je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit par le passé, mais j'aimerais que vous sachiez quelque chose d'important, c'est que si Dieu l'a créé, l'Église, donc il va provisionner tout ce qu'il faut pour que l'Église soit l'Église et que l'Église puisse accomplir ses missions. Si Dieu l'a créé, Dieu va lui donner les ressources nécessaires. Amen. Et ça veut dire qu'il va nous ressourcer. Il va nous donner les dons dont on a besoin. Il va nous donner les forces dont on a besoin. Il va nous donner les relations dont on a besoin. Il va nous donner les appels dont on a besoin, le pouvoir dont on a besoin. Il va nous donner tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse remplir sa volonté pour nous, pour son Église. Ça va établir aussi notre sécurité parce qu'on est tenu par lui, protégé par lui. Prends soin de nous, on est son peuple choisi. Aussi, très intéressant, nous sommes aussi du coup une communauté de prêtres royaux.
Not only are we a chosen people, we're a close people.
Because if you're the royal priesthood, that means you are serving the king. Mais on est aussi fils de prêtres royaux, ça veut dire qu'on sert le roi. On fait partie d'une famille royale en tant que prêtre. C'est ça notre identité. Nous sommes une famille de prêtres royaux. On en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir à ça. Dans le verset 5 et le verset avant celui qu'on a aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire quelques petites choses à propos de ça. En tant que prêtres royaux, on fait partie de la maison du Dieu. On est sa famille, maison du roi. On fait partie de sa famille. Il nous a donné une partie de sa nature à nous. Si vous regardez l'écriture qui est ici dans Romains 8, ce qu'a dit l'équipe de louange, dès que du coup nous étions co-héritiers avec Dieu, le roi des rois et le Dieu des dieux, le saint des saints, nous sommes partie de sa famille. Mais aussi en tant que prêtre royal dans cette famille, nous pouvons nous rapprocher de lui, nous pouvons louer, nous pouvons prier. Et Dieu nous appelle dans le saint des saints, l'endroit. En tant que personne qui intercède pour les autres, c'est ça que font les prêtres. Ils intercèdent pour les autres. Donc la proximité de la famille de prêtres royaux est aussi proche du roi qu'ils peuvent l'être, pas aussi loin du roi qu'ils peuvent être. Vous entendez? Cette personne pense que suivre Jésus, c'est suivre juste suffisamment pour être un petit peu proche, mais pas trop proche parce que ça sera un petit peu inconfortable si on est trop proche. Il va peut-être me dire de demander de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Oui, je n'ai pas envie de le faire parce que Jésus est le roi, donc c'est un petit peu effrayant, si je trouve. Non, ce n'est pas vrai. C'est un roi aimant. On va être aussi proche de lui qu'on peut. On va être avec lui. Et donc, on prie et on cultive une intimité avec lui. Que l'Église soit proche de Dieu. Si vous assumez que l'Église va être proche de Dieu,
là,
je suis désolé, mais du coup, si vous faites partie de l'Église, vous avez...
Vos missions,
c'est d'être proche de Dieu. Voilà. Dernière semaine, voilà, on avait du coup toutes ces équipes. Voilà. Donc, on a l'équipe de prière. Moi, moi, je suis dans l'équipe de lecture, donc je ne suis pas aussi proche de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Tous. Je sais que c'est un peu ridicule, peut-être, en contraste, mais le point, il n'y a pas un segment... Ah, non, les anciens, à eux, ils sont très, très proches de Dieu. Je ne veux jamais être l'un de ceux-là parce que... Oh, il devait être très proche de Dieu. Non. Les anciens doivent être proches de Dieu. J'espère qu'on est proche de Dieu. Mais je veux vous dire, mais chacun d'entre vous est un prêtre royal. Chacun d'entre vous qui suit Christ est un prêtre royal. Vous êtes tous appelés à être proches de Dieu, à être dans sa proximité. Amen. Vous voyez,
vous savez,
lui, il avait besoin d'être proche de Dieu, mais pas lui. Alors, c'est bon, prêtre, vas-y à ma place. Non, c'est pas ça.
Marcher
dans le Saint des Saints. Bon, on a un prêtre qui est tellement bon. Pour la nation, il va faire les choses qu'il a besoin de faire. Et ensuite, Jésus vient, on l'a dit la semaine dernière, il brise le voile.
Nobody's going in before you except Jesus.
Personne ne va devant vous à part Jésus. Non, vous tous, venez près de Jésus. Il y a un endroit pour vous au pied de Jésus. Il y a un endroit pour vous juste devant la salle, à l'avant de la salle. Voilà, il n'y a personne entre vous et Jésus. Vous pouvez être aussi proche de l'action. Qu'il est possible de l'être.
Et
c'est vrai pour notre famille aussi. Si vous voulez avoir une famille proche, si vous voulez être
proche. Voilà,
l'unité dans l'Église se fait quand on est tous proches de Dieu.
Voilà,
c'est pas pour ça, parce qu'on a tous des opinions différentes. Bien sûr, on peut tous avoir des opinions différentes, mais si vous êtes vraiment proche de Dieu, vous allez être proche des autres. Quelqu'un a donné l'illustration du triangle. Si Dieu est en haut du triangle, et c'est vrai principalement pour le mariage, et qu'en dessous, il y a du coup le mari et puis il y a la femme qui est encore en dessous. Et donc, le plus proche, ils se rapprochent de Dieu qui est en haut de la pyramide, le plus proche, ils seront les uns des autres. Alors, parlons des gens qui sont dans l'Église. Le plus je me rapproche de Dieu, et plus je me rapproche des gens qui se rapprochent et qui sont aussi avec Dieu et qui comprennent son pardon. Quelle dynamique intéressante. Et ça commence à unir l'Église et pas à la diviser. Voilà, et quelle attitude vous devez avoir si vous savez que vous êtes pardonné? Ah, je suis tellement... fier d'avoir été pardonné. Non, bien sûr. On a tous été pardonnés. Tous. Et pas par nos travaux, mais par ses efforts à lui pour nous. Ses efforts pour nous. Vous êtes pardonnés et donc vous pouvez pardonner les autres. J'aimerais que vous pensiez à ça un moment. L'Église fait face à un certain nombre d'attaques et de pressions. Et souvent, on pense que le problème principal de l'Église est extérieur. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Qu'est-ce que la société va faire? Qu'est-ce que le sécularisme va faire? Et on dit ces choses. Mais vraiment, la plus grande difficulté possible de l'Église, la plus grande menace, n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et quelqu'un a dit cet exemple. Et j'espère que ça marche aussi bien en français qu'en anglais. Je remercie le traducteur pour ça. L'arche de Noé. Quelle était la plus grande menace de l'arche de Noé? Les tempêtes à l'extérieur ou les pivers à l'intérieur? Pensez à ça. Suivez-moi ici. Vous savez tous ce que c'est qu'un pivert ? Oui,
pivert.
Est-ce que vous savez ce que fait un pivert ? Ils font des trous dans quelque chose ? Pensez-y. Quelle est la plus grande menace de l'Église ? Est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur ? Les tempêtes à l'extérieur ou les pivers à l'intérieur ? Réfléchissez-y. Voilà, ça, vous comprendrez. Vous aurez une illumination vers 3 heures de l'après-midi aujourd'hui. À 15 heures. C'est le mieux que je puisse faire en français. Nous sommes aussi un peuple consacré, une nation sainte. Et ça change la manière et la méthode par laquelle nous nous conduisons ensemble. Nous sommes consacrés, nous sommes mis de côté pour Dieu. Nous devons faire attention à comment nous nous conduisions dans l'Église et les uns avec les autres. On doit faire attention à notre méthodologie, de ne pas utiliser des méthodes qui ne sont pas saintes, la manière dont nous aimons, la manière dont on prêche.
Là,
je blaguais avec Dale pendant qu'on conduisait pour venir ici. Et je voyais tous les Vikings et toutes les compagnies de tours touristiques, de bateaux, de croisières. Voilà, ils étaient au bord de la rivière, et je voyais tout un grand groupe qui était passé devant l'église. J'allais dire, il y a probablement quelques églises aux États-Unis qui auraient proposé quelques donuts et puis des coffees. Et ils auraient du coup comme ça compté ces personnes à qui ils auront offert des rafraîchissements et à manger pour grandir le nombre de la congrégation. Mais non, on n'est pas à propos des chiffres, on n'est pas à propos de ça, on ne va pas utiliser des méthodes humaines, des méthodes de ce monde, pour dire « Oh, nous sommes une grande église ». Mais ce qu'on va dire, c'est que nous sommes consacrés. Avant que j'ai pu avoir ma propre voiture, mon père m'a donné sa voiture. Alors, mon père m'a accepté, m'aimé. Et la première fois qu'il m'a donné les clés de sa voiture, comment est-ce que vous pensez que j'ai conduit sa voiture ? Comme un fou furieux ? Non.
Did I want to drive his car a second time?
Est-ce que j'avais envie de conduire une deuxième fois sa voiture? Oui.
It was his car.
C'était sa voiture.
Not my car.
Pas ma voiture.
This is his church.
Et ici, on est dans son église. On n'est pas dans mon église. Est-ce que vous n'avez pas... Mais vous allez me dire, mais non, est-ce que vous ne pensez pas être propriétaire de cette église? Non. Je n'ai pas l'impression d'être propriétaire de l'église. J'ai l'impression, au contraire, d'être un servant de l'église. Et je ne suis pas l'un de ceux qui vont dire, voilà, ça c'est mon église. Mais je pense qu'ici, c'est ma famille, spirituellement. Mais je crois que je suis un servant de son église, que c'est son église. L'église, la manière dont l'église est dirigée, dont les anciens dirigent, et la manière dont on échange et on se sert les uns les autres, doit du coup refléter sa sainteté, sa grâce envers nous. Et on est appelé une nation. C'est intéressant. Et on peut aller là-dedans, mais ça parle de notre identité. Vous faites partie d'une nation sainte. Vous faites partie d'un peuple qui a une destinée éternelle.
Je sais
que nous sommes des gens qui appartiennent à Dieu.
Nous sommes
un peuple qui appartient à Dieu. Dans l'ancienne version de King James, il dit que nous sommes un peuple
peculiar.
Pour ceux d'entre vous qui comprennent ce mot, vous savez que ça veut dire un peu bizarre.
Ouais.
Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est pour ça que quand ils l'ont traduit dans une version un peu plus moderne, l'idée est un peuple qui appartient à Dieu. On est un peuple chéri. Nous sommes des peuples aimés, un peuple aimé. Nous sommes des gens qui lui sont précieux. Cette église est précieuse pour lui. Il est mort pour cette église. Il est venu pour cette église et pour toutes les églises qui le suivent. Il est venu pour nous. On appartient à lui. Nous sommes précieux aux yeux de Jésus. Quand vous regardez autour dans cette salle, vous devez regarder à tous ces gens qui sont tous précieux pour lui. Et elles devraient donc être, ces gens devraient être précieux pour vous. J'ai essayé de comprendre la métaphore du Nouveau Testament. On parle souvent du coup de la fiancée, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Quelle idée précieuse que le corps du Christ, que nous sommes le corps du Christ, c'est nous. Je me souviens, le jour de mon mariage, j'étais debout devant l'église en attendant que le père de Dale vienne et l'escorte. Je ne m'étais pas préparé, je n'étais pas prêt à ce qui allait m'arriver le jour où elle a monté l'allée. Je ne parle pas de tout le mariage, non, je ne parle pas de ça. Je n'étais peut-être pas préparé pour ça aussi, mais pendant que j'étais debout et que je regardais et que je la voyais au coin arriver à la porte de l'église, des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Pas énormément de larmes. Voilà, je n'ai pas commencé du coup à m'écrouler et à pleurer à grandes larmes, à grosses gouttes. Mais j'ai pleuré. Mais parce que ça m'a touché et je me suis rendu compte que c'était ma femme. Ma femme si précieuse. Et qu'elle ait dit oui à moi, et qu'elle m'appartienne, que je lui appartienne. Je suis un être humain déchu, mais si à un moment donné je peux chérir ma femme, alors imaginez-vous à quel point Jésus puisse chérir sa fiancée, l'Église. Amen. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est nous tous. On est tous précieux à ses yeux. Séché mes larmes et essayé de reprendre mes esprits. Ce jour-là du mariage.
Merci.
Et au moment où ça s'est passé, du coup, elle ne me regardait pas parce que du coup, quelqu'un avait oublié. C'est quelqu'un avait oublié d'allumer les bougies devant l'église. Et du coup, elle cherchait en fait son frère pour qu'il puisse les allumer. Du coup, elle ne l'a pas vu, mais
j'ai peur. Non, je ne
sais pas, c'est le message. Donc, le Seigneur utilise son Église et prend soin, il a tellement à cœur son Église, que ce n'est pas juste une addition à une vie chargée, d'une semaine bien chargée, non? À quel point nous devons être reconnaissants de faire partie de cette Église, de faire partie de cette congrégation et de prendre tout ça sérieusement. J'aimerais vous dire ça, je pense que je n'ai plus de temps, mais laissez-moi vous dire ça. Nous sommes un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveille. On doit le proclamer, on doit du coup le faire connaître, on a une mission externe qui est du coup de partager l'Évangile et de vivre l'Évangile juste en étant nous-mêmes, juste en étant un peuple choisi, juste en étant des gens proches, des gens consacrés, des gens chéris. Si on peut juste vivre ça, alors de la lumière arrivera dans les ténèbres. Et nous déclarons ça.
Voilà.
Une grande raison d'être va complètement enlever le brouillard de la médiocrité et de la perte. On ne le proclame pas. Pour nous-mêmes, on n'est pas fiers de notre Église parce qu'on est mieux qu'une autre Église. Ce n'est même pas dans nos conversations. On ne proclame pas Tikos, on proclame Jésus.
Amen.
Et bien sûr, on adore et on aime Tikos, mais on proclame Jésus parce que c'est lui la raison pour laquelle nous sommes ici tous ensemble. Nos louanges, nos enseignements, toutes nos actions sociales, tout est à propos de Jésus. Il est le centre de nos conversations. On en a parlé la semaine dernière. Vous êtes l'Église. Pas seulement le dimanche, mais toute l'année. Vous êtes des gens consacrés, chéris, choisis, proches de lui. Et les uns avec les autres, vous pouvez vous pardonner. Et quand on fait des erreurs, il faut qu'on se pardonne. Que la grâce soit là. Que la grâce permette.
Preserve the precious thing that with your prayers and participation. Pray for the church.
Quelque chose de précieux de pouvoir prier pour l'Église, de prier pour nous les uns les autres. Prier en tant qu'une famille de prêtres royaux. Car vous êtes des prêtres royaux.
Et
soyez l'Église. Où que vous soyez, au travail, à la maison. Vivez qui vous êtes. Si vous êtes qui vous êtes, si vous connaissez votre Église, on a chanté ces chansons qui disent « Je suis un enfant de Dieu », alors agissez en tant que tel. Faites partir vos insécurités, arrêtez de questionner vos valeurs. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais savez que vous appartenez à Jésus et qu'il ne va jamais vous faillir parce que vous êtes son Église et vous êtes précieux à ses yeux. Il y a une histoire à propos d'un petit garçon. Vous voyez, un petit garçon, il allait à la plage. La mer, l'été, avec sa famille. Et il adorait créer des châteaux de sable. Ils étaient beaux, ils prenaient le temps. Il y avait des murs et des tours et tout un tas de choses dans les châteaux qui se trouvaient dans ces châteaux de sable. Mais à la plage, il y avait aussi des petites brutes, voilà. D'autres garçons qui duraient cuire. Et puis ils voyaient ces châteaux de sable. Et tu sais ce qu'ils faisaient? Voilà, ils les écrasaient, ils les piétinaient, ils sautaient dessus, ils tapaient les murs, ils frappaient les murs. Et lui qui les avait construits, il partirait en courant avec des larmes aux yeux. Mais un jour, il a eu une idée. Et c'était son idée. Je vais prendre des bouts de béton et des cailloux et des pierres. Et je vais les mettre dans la fondation de mon château de sable. Et ensuite, je vais mettre le sable autour de ça. Je mettrai donc ensuite le sable autour de ces bouts de béton, de pierre, de cailloux, de roches. Et donc, les durs à cuire, ces petites brutes revenaient, et ils étaient pieds nus à la plage. Et ils sont venus pour donner des coups de pied et détruire ces châteaux de sable. Et leurs pieds ont rencontré ces pierres et ces roches. Et ils ont couru, ils sont partis en courant, en pleurant. Des fois, on pense que l'Église est comme le château de sable. Donc on a l'impression que Satan est en train de gagner, qui tape, qui frappe et qui va du coup la mettre KO. Mais Jésus est la pierre fondatrice. Et chaque fois que Satan vient frapper, il repart avec des pieds blessés. Pourquoi ? Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu, nous lui appartenons. Et nous sommes ensemble, construits sur Jésus et nos vies personnelles et notre famille. On est tous construits sur lui, sur sa pierre, sur cette pierre angulaire. Et Satan ne pourra jamais rien faire. Amen. Amen. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, c'est tellement facile en tant que personne d'oublier qui nous sommes, Seigneur. Et ça nous arrive tous les jours. Il y a un moment où on oublie. Il y a ce moment d'oubli dans notre esprit. On commence à croire ce que le monde dit sur nous et pas ce que toi tu dis à propos de nous. Alors Seigneur, je prie juste que nous, ici présents, qu'on puisse savoir qui nous sommes, qu'on puisse savoir qui tu as fait de nous, comment tu nous as créés en tant que peuple de Dieu. Oh Jésus, tu es la pierre, tu es la pierre angulaire, la forteresse qui nous délivre. Et rien que Satan puisse faire ne peut gagné par rapport à toi. Tu es notre Seigneur Jésus-Christ. On te remercie. On te loue et on te remercie d'avoir créé ton Église et de nous avoir fait prendre part à cette Église. Et pour ceux qui ont des blessures et qui bloquent la compréhension de ça, je te demande, Seigneur Jésus, de guérir ces blessures par le fait que quelqu'un dans leur passé a dit quelque chose sur eux et ils ont cru ça plutôt que de penser ta vérité, la vérité, Seigneur. Alors je te demande de les aider, de se libérer de ce mensonge et de voir la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Amen.